Chapitre 11. Le christianisme. Idée philosophique que le christianisme accueille, adopte ou crée. Comment il doit donner un tour nouveau à toute philosophie, même étrangère à lui. La philosophie et la morale chrétienne. Le christianisme se répandit dans l'Empire par la propagande des apôtres et tout particulièrement de saint Paul à partir de l'année 40 environ. Ses succès furent extrêmement rapides, surtout parmi les hommes et les femmes du peuple, et gagna peu à peu les classes supérieures. Comme philosophie générale, le christianisme primitif n'apportait absolument que les dômes hébraïques, unité de Dieu, Dieu providentiel, c'est-à-dire intervenant directement dans les événements humains, immortalité de l'âme et récompenses et peines d'outre-tombe, idées récentes chez les juifs, mais cependant antérieur au christianisme. Comme morale, il apportait quelque chose de tout nouveau et de si beau qu'il n'est pas très probable que l'humanité le dépasse jamais et qui peut, incomplètement et imparfaitement, se résumer ainsi. Il ne faut pas seulement craindre Dieu, comme les païens et comme les anciens juifs, il faut l'aimer. Il faut l'aimer passionnément, comme un fils son père, et tout faire pour cet amour et en considération de cet amour. Tous les hommes sont frères comme fils de Dieu, et ils doivent s'aimer comme des frères. Aimez votre prochain comme vous-même, aimez celui qui ne vous aime pas, aimez vos ennemis. Ne soyez pas avides des biens de ce monde, ni ambitieux, ni orgueilleux, car Dieu aime les petits, les humbles, les souffrants et les misérables, et il exaltera les petits, et il déprimera les superbes. Rien de pareil n'avait été dit dans toute l'Antiquité, et il faut des prouesses d'ingéniosité, du reste intéressantes, pour trouver dans les sages anciens quelques linéaments seulement de cette doctrine. Enfin, comme politique, si l'on peut parler ainsi, le christianisme apportait cette nouveauté. Il y a deux empires, l'empire de Dieu et l'empire humain. Vous ne devez pas tout à l'empire humain. Vous ne lui devez très fidèlement que ce qu'il lui faut pour qu'il soit fort et conserve la société. En dehors de lui, et cela fait, vous êtes sujet de Dieu et ne devez compte qu'à Dieu de vos pensées, de vos croyances, de votre conscience, et sur cette partie de vous-même, l'État n'a aucun droit, ni aucune autorité, si ce n'est usurpé et tyrannique. Et il y avait dans cette parole comme la charte de la liberté individuelle, comme la charte des droits de l'homme. Comme élément de sensibilité, enfin, le christianisme apportait l'histoire d'un jeune Dieu, infiniment bon et doux, qui n'avait jamais maudit, qui avait été infiniment aimé, qui avait été persécuté, qui avait été trahi, qui avait pardonné à ses bourreaux et qui était mort dans de grandes souffrances et qu'il fallait imiter, d'où est venue la soif du martyr. Et cette histoire n'était pas en soi plus touchante que celle de Socrate, mais elle était celle d'un jeune martyr, et non d'un martyr vieux, et il y a là, pour l'imagination et la sensibilité des foules, une très sensible différence. Les succès du christianisme. La prodigieuse rapidité des succès du christianisme s'explique assez aisément. Le polythéisme n'avait plus une grande influence sur les foules, et aucune doctrine philosophique n'avait trouvé le chemin des foules, ni même ne l'avait cherché. Le christianisme, essentiellement populaire, aimant les humbles, aimant les petits, ayant tendance à les préférer aux grands de la terre et à les considérer plus que ceux-ci comme enfants de Dieu, fut reçu par les foules comme la seule doctrine pouvant remplacer le polythéisme vermoulu, et elles virent dans le christianisme la religion qu'elles attendaient et dans les chefs du christianisme leurs protecteurs et défenseurs. Son évolution. Le christianisme évolua très rapidement, et de grande doctrine morale, avec un minimum de métaphysique rudimentaire, devint, peut-être à tort, une philosophie rendant compte ou voulant rendre compte de toute chose. Pour ainsi parler, il s'adjoignit une métaphysique qui l'emprunta en grande partie à la philosophie grecque, en grande partie à la tradition hébraïque. Il eut ses idées sur l'origine des choses et assura que Dieu était éternel, mais que la matière ne l'était pas, et que Dieu l'avait créé de rien. Il eut ses idées sur l'essence de Dieu, et le vit en trois personnes ou hypostases, l'une aspect de Dieu comme puissance, l'autre aspect de Dieu comme amour, et l'autre aspect de Dieu comme intelligence. Il eut ses idées sur l'incarnation et l'humanisation de Dieu, Dieu s'étant fait homme sans cesser d'être Dieu en Jésus-Christ. Il eut ses idées sur les rapports de l'homme avec Dieu, l'homme ayant quelque puissance en lui d'épuration et de perfectionnement, mais ayant toujours besoin d'un secours de Dieu pour se perfectionner, théorie de la grâce, ce qu'il est nécessaire que l'homme croie, car sans cela, il serait d'une superbe insolence dans le sentiment de sa liberté. Il eut ses idées sur l'existence du mal sur la terre, disant, pour justifier Dieu, d'avoir permis le mal sur la terre, que la terre était un lieu d'épreuve et que le mal n'était qu'une manière de mettre l'homme à l'épreuve et de savoir quels sont ses mérites. Il eut ses idées sur les récompenses et peines d'outre-tombe, et à l'enfer pour les méchants et le ciel pour les bons qu'avait connu l'Antiquité. Il ajouta le purgatoire, lieu à la fois de punition et de purification par la punition, idée toute platonicienne que Platon a pu inspirer, mais n'avait pas eue. Enfin, il fut toute une philosophie répondant, et du reste d'une façon souvent admirable, à toutes les questions que se pose ou peut se poser l'humanité. Et cela, comme il arrive si fréquemment, lui a été une faiblesse et une force. Une faiblesse parce que, l'embarrassant de questions subtiles, compliquées, inextricables dans lesquelles le genre humain se débattra toujours, cela l'engageait dans des discussions sans fin, où les raisons mauvaises ou faibles données par tel ou tel fidèle compromettaient l'ensemble de l'œuvre. Une force parce que quiconque apporte une règle de vie est à peu près obligé de l'étayer d'idées générales portant sur l'ensemble des choses, de la situer dans une vue générale du monde, sans quoi il semble impuissant, débile, disqualifié pour donner cette règle de vie elle-même incapable de répondre au pourquoi que cette règle de vie soulève, et finalement manque d'autorité. Schismes et hérésies. À tort ou à raison, et il est difficile et bien hasardeux de trancher la question, le christianisme fut toute une philosophie, ce pourquoi il eut ses schismes et ses hérésies. Un certain nombre de chrétiens très sincères ne résolvant pas les questions métaphysiques comme la majorité. Les hérésies furent innombrables. Je ne citerai que les deux qui intéressent éminemment l'histoire de la philosophie. Manès, arabe, et l'Arabie était alors province persique, ressuscita la vieille doctrine zoroastrique des deux principes du bien et du mal et voyait dans le monde deux dieux en lutte, celui de la perfection et celui du péché, et donnait pour devoir à l'homme d'aider le dieu du bien pour que son règne arrivât et pour qu'il y eût destruction du mal dans le monde. Procédèrent de lui les manichéens, qui eurent une grande influence et qui furent condamnés par maintes conciles jusqu'à ce que leur secte s'éteignît pour renaître ou sembler renaître assez souvent au Moyen-Âge et au temps moderne. Arius niait la Trinité, ne croyait qu'en un Dieu, non seulement unique, mais en une seule personne, et par conséquent niait la divinité de Jésus. Il vécut toujours en controverse et en polémique, soutenu par quelques évêques, combattu par la plupart. Après sa mort, sa doctrine se propagea étrangement. Elle fut étouffée en Orient par Théodose, mais fut très généralement adoptée par les barbares d'Occident, Goths, Vandales, Burgondes, Lombards. On la vit renaître plus ou moins précise après la Réforme chez les Sociniens. Rome et le christianisme. Les rapports du christianisme avec le gouvernement de Rome furent, comme on le sait assez, très tragiques. Il y eut 10 persécutions sanglantes et dont quelques-unes furent atroces. On s'est souvent demandé la cause de cette animosité contre les chrétiens de la part d'un gouvernement qui tolérait toutes les religions et toutes les philosophies. On s'est dit que les persécutions sont naturelles à Athènes, où la démocratie, obstinément attachée aux divinités du pays, traite en ennemis du pays ceux qui font abstraction des dieux du pays, que les persécutions sont naturelles de la part d'un Calvin ou d'un Louis XIV, qui confondent en eux les deux pouvoirs et qui n'admettent pas que personne ait dans l'État une autre façon de penser que celle du chef de l'État, qu'elles sont incompréhensibles de la part d'un gouvernement qui admettait tous les cultes et toutes les doctrines. L'explication est peut-être d'abord que le christianisme était essentiellement populaire et que le gouvernement voyait en lui le plébéianisme, toujours inquiétant, et une organisation du plébéianisme, chose plus inquiétante encore. L'administration de la religion avait toujours été chose aristocratique. Les pontifes romains étaient des patriciens, l'empereur était le souverain pontife. Obéir, encore que ce ne fût que spirituellement à des prêtres particuliers, c'était désobéir à l'aristocratie romaine, à l'empereur lui-même, et c'était proprement une révolte. L'explication est peut-être encore que chaque religion nouvelle qui s'introduisait à Rome ne contrariait point et ne contredisait point le polythéisme, le principe du polythéisme étant précisément qu'il y a beaucoup de dieux, tandis que le christianisme, niant tous les dieux, affirmant qu'il n'y en a qu'un et qu'il faut mépriser tous les autres comme n'existant pas, contredisait, niait et ruinait ou prétendait détruire l'essence même du polythéisme. Il n'était pas une variante, il était une hérésie. Il était plus qu'hérétique, il était anarchique. Il condamnait non seulement telle ou telle religion, mais la tolérance même avec laquelle le gouvernement romain acceptait toutes les religions. Et dès lors, il est assez naturel qu'il ait été combattu à outrance par tous les empereurs, à bien peu près, depuis les plus exécrables comme Néron, jusqu'aux meilleurs comme Marc Aurèle. Le christianisme et les philosophes. Les rapports du christianisme avec la philosophie furent confus. L'immense majorité des philosophes le repoussa, se croyant supérieur à lui et du reste, le sentant redoutable, s'arma contre lui de tout ce qu'elle pouvait trouver de beau ou de spécieux ou d'expédient dans l'ancienne philosophie, et l'ardeur du néoplatonisme que nous avons considéré vient en partie précisément de cet instinct de rivalité et de lutte. Il y eut à cette époque une foule d'Ernest Havé opposant l'hellénisme au christianisme. Et Ernest Havé n'est qu'un néoplatonicien du XIXe siècle. Un certain nombre de philosophes, cependant, soit du côté judéo-chrétien, soit du côté hellénique, essayèrent de quelques conciliations, et soit juifs, firent comme des avances à l'hellénisme, soit grecs, admirent qu'il y avait quelque chose d'acceptable du côté de Sion. Aristobule, juif, antérieur à Jésus-Christ, semble avoir tenté d'accommoder Moïse avec Platon. Philon, juif, contemporain de Jésus-Christ et qui lui a survécu, non chrétien, que nous connaissons mieux, poursuivit toute sa vie le dessein de montrer toutes les ressemblances qu'il pouvait y avoir entre Platon et l'Ancien Testament, à peu près comme de nos jours, quelques-uns se sont efforcés de démontrer l'accord surprenant entre la théorie darwinienne et la Genèse. On l'appelait le Platon juif, et l'on disait à Alexandrie « Philon imite Platon » ou « Platon imite Philon ». De leur côté, plus tard, certains Grecs éclectiques que nous avons nommés, Moderatus, Nicomaque, Nomesius, poussèrent la bienveillance jusqu'à tenir compte, sinon de Jésus du moins, de Moïse, et d'admettre la pensée israélite dans l'histoire de la philosophie et de la sagesse humaine. Mais en général, c'est dans les écoles de philosophie et dans le monde, de plus en plus restreint, ce piquant de philosophie, que le christianisme était particulièrement repoussé, écarté et méconnu. Les philosophes chrétiens. Les chrétiens ne laissèrent pas d'avoir, sans parler de beaucoup d'autres qui appartiennent plutôt à l'histoire de l'Église qu'à celle de la philosophie, deux très grands philosophes qui s'imposent à notre attention, Origène et Saint-Augustin. Origène. Origène était alexandrin, de la fin du IIe siècle, élève de saint Clément d'Alexandrie. Chrétien et platonicien, pour se permettre et pour s'excuser de concilier les deux doctrines, il alléguait que les apôtres n'ont donné de la parole chrétienne que ce que la foule pouvait en comprendre et que les doctes pouvaient l'entendre d'une manière plus subtile, plus profonde et plus complète. Cette précaution prise, il exposait son système qui est celui-ci. Dieu est un pur esprit. Il se dégrade déjà dans des esprits qui sont ses émanations. Ces esprits sont capables du bien et du mal. Quand ils inclinent au mal, ils se revêtent de matière et deviennent des âmes dans des corps. C'est ce que nous sommes. Il y a du reste plus bas que nous. Il y a des esprits impurs qui ont revêtu des corps immondes. Ce sont les démons. Or, frères déchus des anges, nous sommes libres, moins qu'eux, mais libres encore. Par cette liberté, nous pouvons en cette vie ou nous relever ou nous abaisser. Mais cette liberté ne suffit pas. Il nous faut un peu d'aide. Cette aide nous vient des esprits qui sont restés esprits purs. L'aide qu'ils nous donnent est combattue par les efforts des esprits entièrement déchus qui sont plus bas que nous dans l'échelle. Lutter contre les esprits immondes, aider les esprits purs qui nous aident, les aider à nous aider, tel est notre devoir dans cette vie qui est une médecine. La médecine de Platon, c'est-à-dire une punition, stérile quand elle n'est pas acceptée de nous, salutaire quand acceptée de nous avec reconnaissance. Elle est expiation et par conséquent purification. Le rôle du Rédempteur dans tout cela est le même que celui des esprits, mais plus grand et plus décisif. Roi des esprits, esprit des esprits, il éclaire par la révélation notre intelligence trop confuse et fortifie contre la tentation notre volonté trop débile. Saint Augustin. Saint Augustin de Tagaste, Afrique, longtemps païen, exerçant la profession de professeur de rhétorique, devint chrétien et fut évêque d'Hippone. C'est lui qui a fixé, de la façon la plus conforme et la plus accessible aux intelligences occidentales, la doctrine chrétienne. Au lieu de la confondre, plus ou moins intentionnellement, plus ou moins par mégarde, avec le philosophisme, il s'est de toutes ses forces, qui étaient grandes, attachées à l'en distinguer avec la dernière précision possible. Les philosophes ont toujours envisagé le monde comme une émanation de Dieu. Dès lors, tout est Dieu. Ne raisonnons pas ainsi. Il n'y a pas émanation, il y a création. Dieu a créé le monde et est resté distinct de lui. Il l'habite de telle sorte que nous vivons en lui. Ineo vivimus, novemur et sumus. Il l'habite tout entier, mais il n'est pas lui. Il est partout, il n'est pas tout. Dieu a créé le monde. Donc, dira-t-on, avant que le monde fût créé, Dieu est resté un temps immense sans rien faire. Point du tout, parce que le temps n'a commencé que du moment où le monde a été créé. Dieu est en dehors du temps. L'éternel, c'est l'absence de temps. Dieu n'a donc pas été un instant avant la création du monde. Ou, si vous voulez, il a été une éternité avant la naissance du monde. Mais c'est la même chose, car l'éternité, c'est le temps n'existant pas. Certains entendent Dieu en trois personnes, par trois dieux. Ce polythéisme, ce paganisme est à rejeter. Mais comment comprendre? Comment? Vous sentez-vous plusieurs âmes? Non. Et cependant, il y a plusieurs facultés de l'âme. Les trois personnes de Dieu sont les trois facultés divines. L'homme est une âme et un corps. On ne doit pas douter de l'âme, car douter, c'est déjà penser, et penser, c'est être. Nous sommes avant tout des êtres pensants. Mais qu'est-ce que l'âme? Quelque chose d'immatériel à coup sûr, puisqu'elle conçoit des choses immatérielles, lignes, points, surfaces, espaces. Il est aussi nécessaire que l'âme soit immatérielle pour saisir l'immatériel, qu'il est nécessaire que la main soit matérielle pour saisir une pierre. D'où vient l'âme? de l'âme des ancêtres par transmission? Ce n'est pas probable, car c'est la considérer comme matérielle. De Dieu par émanation? Ce n'est pas admissible. C'est la même erreur que de croire le monde émanation de Dieu. Là aussi, il y a non émanation, mais création. Dieu crée les âmes en destination des corps qui, eux, naissent par hérédité. Le corps détruit, que devient l'âme? Elle ne doit pas périr, car la pensée ne dépendant point des sens, il n'y a pas de raison pour qu'elle disparaisse quand les sens disparaissent. La liberté humaine est chose certaine. Nous sommes libres de faire le bien ou de faire le mal. Mais alors Dieu n'a pu savoir d'avance ce que je ferai aujourd'hui, et, par conséquent, voilà que Dieu, du moins en sa puissance de savoir, est limité, n'est pas tout-puissant. Saint Augustin répond confusément, car cette question est sans doute insoluble. Que nous avons une illusion de liberté, une illusion que nous sommes libres, qui suffit pour que nous ayons du mérite si nous faisons bien et du démérite si nous faisons mal, et que cette illusion de liberté est une liberté relative, mais qui laisse absolue la prescience de Dieu et par conséquent sa toute-puissance. L'homme, du reste, est extrêmement faible, débile et incapable du bien à cause du péché originel, du péché de notre premier père et de notre première mère, lequel s'est transmis par hérédité jusqu'à nous et nous paralyse. Mais Dieu nous aide, et c'est ce qui s'appelle la grâce. Il nous aide gratuitement, comme l'indique le mot grâce, et s'il veut, et quand il veut, et dans la mesure qu'il veut. La doctrine de la prédestination, par laquelle on est d'avance destiné à être sauvé ou perdu, naîtra de là.